I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbel, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui vous allez écouter un entretien avec la chef Linda Granbring, enregistré en live il y a un bon moment, en octobre dernier, lors d'un week-end spécial cuisine au musée du Quai Branly.
Je pense qu'à la base c'est pour ça que je fais de la cuisine, parce que j'aime beaucoup bien manger. Et quand tu sais le faire toi-même, c'est facile de bien manger tous les jours. Je pense que je veux faire plaisir à moi-même, donc si moi-même je suis content de plat, ça vaut plus que si le client est content du plat. Il y a, je sais pas, il y a 200 personnes qui viennent manger toutes les semaines et tu peux jamais
contenter tout le monde.
Exactement. Donc c'est mieux de, si toi-même t'es fier de ce que tu fais, c'est déjà très bien.
Pourquoi Linda ? Parce que sa cuisine, ni très démonstrative, ni très technique, me remplit d'amour. J'ai attendu longtemps avant de diffuser cet épisode, car Linda s'est retrouvée sans restaurant fixe cet hiver, mais aujourd'hui, c'est le bon moment, puisqu'elle vient tout juste d'inaugurer sa nouvelle adresse. Celle-ci s'appelle toujours OK, ça s'écrit A-K-E, et se trouve rue Marie-Louise, à deux pas de l'ancienne, toujours dans le 10e arrondissement. J'aime son approche, qui consiste à régaler les gens au quotidien, et je suis d'autant plus ravie de rester voisine de son restaurant. Avec Linda, nous avons parlé de rôle modèle, d'être cuisinière intermittente, et de Samla, une brioche typiquement suédoise. N'oubliez pas, grâce au partenariat avec Elle à Table, vous pouvez écouter 48 heures avant tout le monde sur le site elle.fr chaque nouvel épisode, avant de le retrouver sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute!
Bonjour à toutes et à tous. On s'est connus dans la cave à vin qui est en bas de chez moi, d'abord en voisine, si on peut dire. Et puis on a commencé à discuter, puis après j'ai goûté sa cuisine, regoûté et encore regoûté. J'ai tout de suite adoré et j'adore encore. Et donc je trouve qu'il y a vraiment un côté réconfortant et émotionnel dans ta cuisine et dans tes plats. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu réfléchis quand tu cuisines ?
Je mets beaucoup d'amour dans ma cuisine. Tout est réfléchi pour être très très bon. Et je cuisine que des choses que j'ai envie de manger moi-même. Oui, peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, comme toi, après être venu dîner, ils disent qu'ils ont senti quelque chose. Et c'est peut-être cet amour que je transmets par ma cuisine.
En tout cas, c'est vrai que c'est pas une cuisine... technique, enfin en tout cas on n'a pas l'impression,
non,
mais c'est que ça lui enlève pas de qualité, hein. Mais c'est vrai que on est hyper content de manger ça et ça fait du bien et c'est bon et
oui, non, c'est pas une cuisine technique, c'est plus une cuisine d'amour, voilà.
Bon, pour revenir à tes tout débuts en cuisine, enfant en tout cas, t'aimais bien déjà sur l'île de Suède où tu as grandi, faire des recettes, lire des magazines, tout
oui,
ça, c'était tes premiers pas.
Je pense que dans ma famille, les repas, c'est le plus important. C'est vraiment autour de la table que tout se passait avec mon frère et mes sœurs. On aime tous bien manger.
Et tu as cuisiné à partir de quel âge ?
J'ai commencé à faire des gâteaux avec ma mère toute petite. Il y a des photos où j'ai 4 ans peut-être, en train de mélanger la pâte. Et après, petit à petit, j'ai fait comme tout le monde, j'imagine des salades, des trucs simples, après en passant par des vrais plats.
Mais pas de là à imaginer en faire ton métier. Tu me disais qu'en Suède, c'était un peu comme en France il y a une vingtaine d'années. La cuisine, c'était... un peu pour les camps, et tu te projetais pas là-dedans.
Oui, c'est vrai. J'imaginais pas d'en faire un métier. C'était pas une possibilité, si tu veux, de cuisiner comme métier.
De façon professionnelle.
Exactement.
T'aimais la compta, c'est ça, les chiffres.
Je voulais faire de la compta, exactement.
Ça paraît éloigné aujourd'hui, mais...
Je voulais faire quelque chose de sérieux. Donc la compta me semblait bien. Après, j'ai changé d'avis.
Et finalement, donc t'as fait une école de food service.
Finalement, j'ai fait une école en Suède qui mélange la nutrition et le business. En anglais, ça s'appelle le food service management.
Ça n'existe pas vraiment en France, mais c'est un mélange, tu disais, entre nutrition, management hôtelier, enfin management de restauration et hygiène aussi.
Oui, exactement.
Qui destine à travailler à diriger des cantines ou de la restauration collective.
Exactement, t'es formé pour gérer des grosses cantines.
Et ça t'a fait sérieusement flipper à la fin de tes études.
Alors j'ai fait 3 ans d'études à l'université de Göteborg. Et une fois diplômée, je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas du tout ce que j'aimerais faire. J'aimerais faire quelque chose de créatif et vraiment de travailler avec les mains et créer quelque chose et faire plaisir aux autres.
Et donc, t'avais été familiarisée avec ces métiers-là en Erasmus à Newcastle?
J'ai travaillé un peu comme serveuse dans des restaurants en même temps que mes études. Et après, comme tu dis, à Newcastle, j'étais en Erasmus et j'ai rencontré des Français là-bas. Donc, j'ai créé un lien avec la France.
Ah oui,
c'est pour ça qu'après, sur un coup de tête, je suis venue à Paris il y a 11 ans.
À 22 ans, donc tu arrives à Paris et tu te dis que tu vas postuler dans un restaurant. C'était le plus facile pour trouver du travail.
Exactement.
Donc, tu postules au fumoir?
Exactement, parce que le chef là-bas, il est toujours Henrik Andersson, est suédois. Et on avait des connaissances en commun. Donc, j'ai postulé là-bas et il m'a fait faire un essai. Et j'ai commencé à travailler en cuisine froide avec aucune expérience chez lui.
2 jours après ton arrivée, c'est ça? Enfin, vraiment très peu de temps.
Une semaine, je pense, oui.
Ouais, ça a été très rapide.
C'était très, très vite. Et par chance, parce que c'était une très très belle expérience, et lui c'est un super chef, donc j'ai eu beaucoup de chance.
C'était dur au début parce que t'avais aucune expérience, comme tu disais, de la cuisine professionnelle.
Exactement. Oui, c'était très dur. Il fallait tout apprendre, comment tu organises une cuisine, la mise en place.
Le rythme aussi.
Exactement. Les horaires, c'était assez intense.
Mais ça t'a plu.
Ça m'a beaucoup plu, oui. Ça m'a beaucoup plu.
Et ensuite, tu as décidé de continuer après un an et demi. Enfin, t'es retourné en Suède pour un événement familial et t'as décidé quand même de continuer dans la cuisine et de persévérer en allant travailler, un peu à droite à gauche au cercle suédois. En même temps, t'étais aussi vendeuse pour la marque Sessoun au bon marché.
C'est vrai.
Pour peaufiner ton français.
Exactement. pour apprendre le français, on va dire.
La Gazeta, donc avec un chef suédois aussi.
Oui.
Peter Nielsen. Et puis le Broken Arm, où t'es resté 4 ans.
Où j'ai finalement été chef, c'était moi qui gérais la cuisine au Broken Arm.
Et est-ce qu'il y avait des chefs que t'admirais quand t'as commencé, des parcours de femmes chefs qui t'inspiraient?
Non, je pense pas, hein. J'ai jamais pensé à ça, non. C'est plutôt avec les gens avec qui j'ai travaillé, c'est ça qui m'a inspirée.
Les gens du quotidien, enfin le parcours du quotidien.
Les chefs que j'ai connus ou des collègues que j'ai connus, c'est eux qui m'ont inspirée.
Est-ce que tu imaginais qu'est-ce que tu imaginais quand t'as commencé à faire la cuisine? Tu t'imaginais chef plus tard, avoir ton restaurant?
Non,
je pensais pas.
Pas du tout, non. Non, non. C'était
au jour le jour.
Exactement. Je réfléchissais pas vraiment à
long terme.
Qu'est-ce que je fais dans 10 ans? Même si les gens m'en demandaient souvent, mais non, je savais pas. J'attendais le moment. Où ça se passe peut-être, je sais pas.
Et t'as jamais été tentée d'aller travailler dans un 3 étoiles ou dans un restaurant
jamais.
Très gastronomique?
Non, ce genre de cuisine m'intéresse pas vraiment. J'aime plus les choses simples, mais bon, avec des bons produits. Une cuisine de saison, bien préparée, logiquement préparée. Parce que je comprends pas vraiment l'idée de mettre trop de temps dans un plat, sans que ça se voit dans le résultat, en fait. Je trouve qu'il faut trouver un équilibre entre les deux.
C'est ce que c'est un peu l'héritage aussi de tes études, enfin de
oui, sûrement,
de cet
oui.
aspect
ouais, logique et assez direct. Ouais, sûrement.
Et donc dans Au Broken Arm dont on parlait, il y a, bon, il y a la, pour la petite anecdote, quand j'ai appris que Linda avait été chef là-bas, j'ai ressorti une photo merci Instagram donc de plat que j'avais mangé qu'elle avait fait, donc je la connaissais pas à l'époque mais je me souvenais très bien de ce plat qui était délicieux, qui était très simple mais qui m'avait vachement touchée. C'était un bagel je crois au poulet et à l'estragon avec des, il était très vert donc il y avait plein de légumes je pense, mais je me souvenais très bien de ce plat, voilà, qui est un plat de tous les jours mais vraiment qui m'avait marqué. Et ouais, là-bas, tu faisais, t'es resté 4 ans, tu faisais des prouesses parce que tu travaillais dans 1 mètre carré à peu près, non?
Oui, alors.
C'était minuscule.
The Broken Arm, c'est un café-restaurant qui est ouvert que le midi. Et la cuisine, c'est pratiquement le bout d'un bar. Donc ça fait 2 mètres carrés, il y avait une plaque d'induction, il y avait un mini-four, beaucoup de contraintes, mais ça me laissait aussi, la place de vraiment travailler ma cuisine et d'évoluer en tant que cuisinière.
Ça a été bénéfique pour ta créativité aussi.
Exactement. Super créative, même si c'était assez carré ce que je pouvais faire parce que il y avait pas d'extraction, etc. Je pense que ça laissait beaucoup de place à la créativité, oui.
Et donc fatiguée après 4 années intenses là-bas,
oui,
tu décides de quitter ton poste pour t'atteler à accepter les projets intéressants qu'on te proposait, comme écrire un livre. Donc t'as sorti chez Marabout, voyager, faire une résidence de 2 mois aux États-Unis dans le Vermont, du consulting au Kazakhstan.
Oui, c'est vrai.
Bref, pendant 2 ans, t'étais chef freelance, comme on dit.
On m'a proposé
à vadrouiller à droite à gauche.
On m'a proposé beaucoup de projets intéressants ou pas, et j'ai travaillé un peu partout avec des gens très différents. Ouais, c'était très très sympathique.
Ça nourrit ta cuisine aussi.
Oui, je pense.
Les expériences, tu me parlais du Kazakhstan où t'as découvert aussi une autre cuisine, même si c'était rapide. Le Vermont, où tu travaillais des légumes hyper locavores.
Oui. Au Kazakhstan, ce qui était ce qui m'a le plus marqué, c'est que là-bas, tout ce qui est étranger est plus valorisé que ce qui est local. Eux, ils admirent beaucoup la cuisine française ou la cuisine italienne. Ils cherchent pas vraiment à faire quelque chose de local. Et ça, je trouvais ça très dommage. Donc, j'ai essayé de leur montrer ce qu'ils pouvaient faire avec leurs produits locaux.
Moderniser leur cuisine, aussi, enfin, la rendre plus sexy.
Enfin,
oui. Et donc, tu es resté 2 ans en freelance. Et puis, tu fais une résidence de 3 jours au café Coffee Shop Radio Dez, qui est rue Alibert. Et c'est là que tu rencontres Alain Ing, le caviste d'à côté.
Exactement, pour le lancement de mon livre, mon premier livre de food pairing, qui est sorti chez Marabout en 2018. On a fait des dîners dans ce café-là. Et Alain, il tenait la cave juste à côté et il nous fournissait le vin. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus.
Vous êtes rencontrés, il t'a proposé ensuite de faire des dîners dans sa cave.
Dans sa cave, pendant... pour un peu animer la cave, oui.
Pendant 2-3 semaines, l'année dernière, au mois de novembre, je crois. Donc, cette fameuse cave où je suis cliente encore. Et finalement, ça marche bien. Tu restes 2 mois. Après, tu reviens 2 mois. Et jusqu'à ce que tu envisages d'arrêter ton statut de freelance, en fait.
Ça a tellement bien marché, en fait. Les gens adoraient son vin nature, il a une très bonne sélection de vin nature et ça marchait très bien avec les petits plats qu'on faisait.
Il y a le côté convivial, je sais pas, il y avait aussi cette adresse de quartier en même temps et pas prétentieuse. Ça a bien fonctionné.
Les gens se sentaient à l'aise, je pense. Ils disaient, c'est comme aller chez des amis. C'est pas comme aller dîner au restaurant.
Et donc, qu'est-ce qui t'a décidé à passer le cap de ne plus être chef freelance, mais de devenir chef d'un restaurant quand même, même si c'est un restaurant.
Je pense que ça me manquait d'avoir ma propre cuisine où les gens ils savent que je suis là et je peux les accueillir un peu comme chez moi. Et ça me manquait aussi d'avoir une cuisine où je peux faire de la mise en place tous les jours. Parce que ça, c'est important pour la créativité. Tu testes des choses, tu sais que tu as une sauce déjà faite. Donc, c'est facile de élaborer des nouvelles recettes. Quand tu es en freelance, t'as pas vraiment ce point fixe. Et c'est beaucoup plus difficile trouver une stabilité.
Ce que tu me disais, c'est que t'en avais un peu marre aussi d'avoir ta valise. Enfin, t'étais comme quelqu'un qui squatte à droite, à gauche avec sa valise et qui arrive avec ses casseroles. Et...
Ça me manquait d'avoir mon chez-moi.
Les limites.
C'était temps de revenir à ça.
Donc, Alain a fait des travaux en cuisine. Vous avez transformé les lieux ensemble avec Julien, qui est juste là aussi, le conjoint de Linda, s'occupe des vins et qui s'occupe du service et de la vaisselle aussi.
Non, donc, pas vraiment.
Il disait ça tout à l'heure, j'avais des doutes, mais...
C'est pas vrai.
Donc, vous avez construit et transformé cette cave, donc en cave à manger, il a déménagé la vraie cave, si on peut dire, la vraie activité caviste juste à côté. Et donc dans cet endroit de cave à manger, c'est devenu quand même un petit peu plus un vrai restaurant où vous êtes installé petit à petit et où vous continuez à vous développer. Vous avez changé le nom aussi. Maintenant, ça s'appelle toujours OK, mais ça s'écrit plus pareil.
Ça s'écrit en suédois, avec les lettres qui existent qu'en suédois. C'est une A avec un rond au-dessus. Ça se prononce O. Ensuite, c'est K-E et ça fait OK. Et c'est le prénom de mon oncle. C'est ça la petite histoire.
Le clin d'œil suédois.
Oui.
Pour garder la filiation. On va faire une petite pause interview dans l'interview. C'est une tradition dans mon podcast.
D'accord.
Tu vas devoir répondre du tac au tac. Ton âge?
34.
Du tac au tac. Ton signe astrologique?
Vierge.
Ton plat signature?
J'en ai trop. J'en ai une pour chaque saison, je pense.
Alors, en ce moment, en automne?
En ce moment, des gnocchis frits avec du poivre de Jamaïque, de lardons et des oignons.
Ça donne envie, hein. Ton plat préféré à manger?
Tout ce qui est bon.
Le chef que tu admires le plus?
Plus, je sais pas, mais j'admire beaucoup la chef de Holy Belly, Sarah Mojo, parce qu'elle gère une très grande équipe parfaitement.
Ton ingrédient préféré?
Les agrumes.
Et ton ingrédient détesté?
J'en ai pas.
Ton ustensile fétiche?
Mon quoi, pardon?
Ton ustensile fétiche.
Ah, la spatule.
Et ton dernier meilleur repas? Celui qui te vient comme ça en tête, sans réfléchir.
Sûrement chez Mokonuts. J'adore manger chez Mokonuts.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
Je sais pas.
Et la pire critique, peut-être que tu t'en souviendras plus facilement.
Ah, c'était très bon. Il est où le chef?
Toujours sympa. C'était chez OK?
Non, ça c'était sûrement chez The Broken Arm.
Il est où le chef? C'est drôle.
Ouais.
Il s'attendait pas à avoir une femme en cuisine.
Exactement.
Tu m'as dit, toi, t'as jamais vraiment... Tu m'as dit que t'avais toujours travaillé avec des chefs sympas.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai connu que des chefs d'abord très doués et après très intelligents et genuines.
T'as jamais senti que le fait d'être une femme en cuisine, c'était un inconvénient ou difficile?
Non, jamais.
T'as de la chance. Quelle est ta plus grande fierté professionnelle?
sûrement que les gens reviennent manger dans mon restaurant.
Et comment tu te présentes comme tu disais là dans cette critique qu'on ne voyait pas forcément chef, mais toi comment tu te sens et comment tu te présentes? Est-ce que c'est restauratrice, chef, cuisinière?
Cuisinière, je pense, tout simplement. Et artiste.
Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi?
La vie.
Qu'est-ce qui guide le fait de faire tes assiettes?
Une envie de créer, je pense, tout simplement.
De régaler aussi, tu disais que tu aimais donner de l'amour à travers...
Oui, bien sûr, de bien manger. Je pense qu'à la base, c'est pour ça que je fais de la cuisine, parce que j'aime beaucoup bien manger. Et quand tu sais le faire toi-même, c'est facile de bien manger tous les jours.
Et donner quand même aux clients, c'est aussi une part importante dedans?
Oui, bien sûr. Mais tout d'abord... je pense que je veux faire plaisir à moi-même. Donc, si moi-même je suis content du plat, ça vaut plus que si le client est content du plat.
C'est très égoïste finalement.
Mais c'est vrai, parce que tu peux jamais. Il y a 200 personnes qui viennent manger toutes les semaines et tu peux jamais
contenter tout le monde.
Exactement. Donc, c'est mieux de. Si toi-même t'es fier de ce que tu fais, c'est déjà très bien.
Est-ce que c'est dur d'être jugé à chaque assiette, à chaque client?
Oui.
Parce que c'est quand même quelque chose de dans la cuisine, ça revient à chaque plat. Mm. Tu remets en question ta cuisine. Carrément, ouais. Et ton...
T'as qu'une chance.
Ouais. Et c'est dur, ouais.
Ouais, c'est très stressant de toujours maintenir une très bonne qualité, mais je sais pas, il faut s'habituer. Parce que c'est le métier.
tu fais un entraînement, tu as besoin d'être en forme quand tu cuisines.
Bien sûr, oui.
Tu essayes de te maintenir justement dans un bon état d'esprit.
Exactement. De rester positif et de trouver de la créativité tous les jours.
Comment tu conçois tes assiettes? L'autre jour, quand je suis passée, tu étais en train de faire ton menu, de réfléchir.
Ça tourne autour de légumes de saison. C'est ça la base, toujours la base de mes recettes. Et après, je réfléchis à ce que j'aimerais manger pour trouver des aliments qui vont bien ensemble. Un peu de poisson, un peu de viande, des épices, des herbes.
Oui, t'as 5 assiettes dans le menu. Cinq assiettes différentes
salées.
Dans le
menu, on propose, on appelle ça des demi-portions. C'est fait pour, soit tu en prends plusieurs, soit tu partages avec tes amis. Et il y en a 5, ouais.
Et donc, tu essayes d'équilibrer ce que tu disais. Si tu fais une assiette avec du poisson, de la viande, végétarien aussi, ça t'aide à construire.
Il y a toujours quelque chose pour que chacun puisse trouver son bonheur dans le menu. C'est ça l'idée.
Est-ce que tu cuisines avec ton cœur ou avec ta tête? Même si on a un peu deviné, oui. Mais...
Les deux, je pense.
Les deux.
Peut-être plus avec le cœur. Si tu manges avec le cœur ou tu manges avec la tête, je sais pas.
Un peu des deux, sans doute.
Le goût, c'est dans le cœur ou la tête?
Je sais pas. Un peu dans les deux endroits, sans doute. Ouais. Est-ce que tes voyages et tes origines inspirent ta cuisine? Enfin, tu parlais du Kazakhstan et...
mes origines, oui, sûrement. Il y a souvent des touches scandinaves dans le menu. Peut-être pas des plats suédois, mais des inspirations ou des ingrédients suédois, oui.
Mais très discrètes, hein. Discrètes et en même temps qui sont présentes.
Oui.
Si on veut les voir, si on veut pas les voir, en tout cas, on n'est pas obligé de les voir.
Non,
finalement.
C'est vrai. Là, il y a 2 semaines, il y avait, par exemple, des cèpes séchées que j'ai ramassées avec mon père, quand j'étais en Suède, là, il y a pas longtemps. Et, là, cette semaine, il y a, dans un des desserts, il y a la combinaison pomme-cannelle qui existe sûrement dans d'autres cultures aussi, mais en Suède, c'est assez classique.
C'est très important.
Mm.
Et il y a aussi, enfin, en Suède, en fait, on sait pas forcément, mais il y a beaucoup d'épices qui sont présentes, comme la cardamome, la cannelle, le clou de girofle. Oui. C'est des épices, quoi, que tu aimes utiliser dans ta cuisine.
Oui, carrément. Souvent, dans des recettes traditionnelles suédoises, il y a ces épices-là. Qui datent, je sais pas quand. Et qui sont restées dans la culture suédoise.
Et donc toi tu t'en sers, tu les réutilises
oui.
sans faire quelque chose de très terroir non plus. Ça te nourrit instinctif ou...
Oui, et pas trop fort.
Et tu fais par exemple en février, tu fais cette recette traditionnelle qui est samla.
Oui.
J'ai regardé des photos parce que je l'avais pas goûté en février dernier. Mm. Ça ressemble à un gros chou à la crème.
C'est plutôt une brioche, oui.
Mais c'est une brioche qui ressemble un peu à un chou à la crème, je trouvais, dans la
oui.
forme.
Déjà, elle est coupée en deux, elle est fourrée d'une crème d'amande et ensuite de la chantilly. Et dans la crème d'amande, il y a de la cardamome et aussi dans la brioche, c'est de la cardamome.
Donc c'est assez marqué suédois.
Oui, très suédois, oui.
Il y a aussi le piment de la Jamaïque dont tu parlais,
oui.
dans les gnocchis aussi, tu parlais tout à l'heure,
oui.
ça qui reviennent. Et ça, tu me disais, c'était un goût assez typique avec l'association lard oignon. C'était un goût assez typique de ta région.
Exactement. Mais nous, on n'en fait pas des gnocchis comme ça. On fait
des ragoûts un peu ou des
non. C'est surtout des une pâte à base de pommes de terre et après fourrée avec cette mélange lard, oignon, baies de Jamaïque qui sont ensuite fermées et pochées.
Ah oui,
oui.
Ah, ça doit être
tu
bon.
Manges ça avec une confiture d'érelle et une sauce blanche. Kroppkaka, on appelle ça.
Et les pickles aussi, c'est très suédois. Hein.
Oui.
Aujourd'hui, on en trouve dans la cuisine à Paris beaucoup.
Dans la
jeune cuisine, mais c'est
oui.
Vous c'est quelque chose, toi c'est quelque chose que tu connais depuis l'enfance et que tu
oui
goûtes,
c'est vrai que chez les Suédois il y a souvent des piquettes dans le frigo, soit de betterave soit de concombre. Après on n'en mange pas tous les jours, mais il y en a toujours dans le frigo.
Alors que nous, à part les cornichons, on connaissait pas trop jusqu'à il y a pas longtemps, c'était pas trop développé encore.
J'adore les pickles.
Du coup, t'en mets souvent hein, dans ta cuisine.
Oui, j'en mets souvent, ouais.
Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de faire dans ta cuisine ou que tu t'interdis de cuisiner ou...
Non, sauf des mauvais produits. On source vraiment... On réfléchit beaucoup aux produits qu'on utilise. On travaille que avec des fruits et des légumes bio qui viennent... d'ici, de notre région, ou en tout cas pas de très loin, pas de Pérou ou de Mexique. Et on essaye de choisir de la viande bio également, et des poissons qui sont... où on est sûr qu'il y en a toujours beaucoup.
De la pêche responsable.
Exactement, ouais. Merci. Exactement.
Cuisiner, est-ce que c'est un besoin pour toi, un peu quotidien, viscéral? Enfin, tu ressens le besoin quand tu cuisines, quand t'es en vacances,
oui.
par exemple?
Oui. Je pense que c'est encore cette besoin de créativité, de créer quelque chose et de voir le résultat assez rapidement.
De créer de tes mains, comme tu disais.
Je fais aussi beaucoup de couture, des vêtements ou des choses, et je pense que c'est la même chose. Tu utilises la même partie du cerveau quand tu cuisines et quand tu fais de la couture, parce que tu choisis tes matières premières, tu rassembles, tu travailles et tu vois assez rapidement le résultat.
Et après on te critique ou pas.
Oui.
Et est-ce que tu pourrais cuisiner comme ces chefs qui sont plus des managers que des cuisiniers du quotidien? Finalement, ce serait difficile.
Ah, je sais pas.
Parce que
j'ai jamais fait ça.
T'as jamais fait ça, ouais.
Non. J'ai toujours été dans la cuisine et dans la production.
Et parce que t'as appris quand même le management dans ton, dans tes études aussi, donc.
J'ai pas pratiqué.
T'as jamais pratiqué ça.
Non. Je sais pas, il faut tester, avant de savoir.
Et quel genre de chef tu te sens? Enfin, t'as pas testé, mais est-ce que t'es, avec ta petite équipe, avec Julien, avec, vous avez une autre personne aussi, t'es une chef stressée, t'es une chef bienveillante, t'es une chef comment?
Les gens disent que j'ai l'air très très calme de l'extérieur. Ils me regardent travailler en cuisine parce que la cuisine est ouverte, donc ils me voient clairement. Sauf que moi, je le ressens pas du tout comme ça. C'est, je me sens plutôt stressée, ouais. Sauf que ça se voit pas à l'extérieur.
T'arrives à garder le contrôle extérieur.
Oui, c'est ça. Après. En cuisine, je suis très très organisée et je travaille assez rapidement, donc tu peux pas venir me parler pendant le service. Il vaut mieux s'abstenir.
Et quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois ? Tu parlais du Broken Arm tout à l'heure. Est-ce que c'était là-bas ? Ouais. Est-ce que c'était à partir de quel moment tu t'es appelé chef ou t'as accepté qu'on t'appelle comme ça ?
Je sais pas. Non, je saurais non. pas te dire.
Tu te sens, enfin, tu disais que tu te présentais plutôt comme cuisinière, peut-être que.
Oui, c'est finalement. C'est aussi parce qu'en français, t'as chef, ça veut aussi dire le chef, la personne qui est en charge. Donc c'est un peu. J'ai toujours pas compris la différence.
Ben, c'est vrai que le chef, c'est le côté manager aussi.
Oui.
Que t'as pas quand t'es seul, enfin finalement, mais c'est un mot qui est utilisé pour les deux aspects. C'est pour ça que j'aime bien poser cette question.
Oui, c'est pour ça que c'est difficile de répondre.
Donc tu cuisines encore à la maison?
Beaucoup moins.
Bon bah moi je cuisine tes recettes en tout cas celles Merci. Qui sont dans inspirées de celles qui sont dans ton livre sur le food pairing, donc qui est sorti chez Marabout. Dedans, tu explores les accords audacieux, celui des asperges vertes et de la pistache, celui du brocoli avec le duca et les noisettes ou d'autres accords encore, cassis, romarin. Ça, c'était, enfin, ce que vous avez appelé food pairing, donc ces accords un peu audacieux pour construire une cuisine après assez facilement. C'était quelque chose déjà que tu pratiquais, toi.
Oui, alors c'est des recettes très simples, mais sur des associations un peu étonnantes. C'était ça l'idée de base. Et je pense que c'est ça ma cuisine. C'est quelque chose de très simple, mais avec des associations étonnantes.
Et donc facile, si je peux dire, à refaire à la maison.
Oui.
Et donc j'ai une autre tradition du podcast, c'est de demander une recette super simple à faire. Donc qu'est-ce que tu nous recommandes?
On va prendre une recette du menu de cette semaine sur le céleri rave qui est en pleine saison en ce moment. J'adore le céleri rave et je vous conseille de le cuire déjà très bien le laver. La garder entièrement, mais vous lavez la peau sans l'éplucher. Après, vous mettez au four comme il est pendant 1h30 sur 180 degrés. Et ça va le cuire et un peu le dessécher. Il va perdre un peu d'eau. Et son goût va être réinforcé. C'est super bon. Et avec ça, vous faites un beurre noisette. Donc, vous faites cuire le beurre jusqu'à qu'il soit doré et délicieux. Dedans, vous mettez des raisins, des câpres et des feuilles de sauge. Et au moment de servir, vous snackez le céleri rave coupé en morceaux. Et vous mettez le beurre dessus et vous servez ça avec ce que vous voulez ou en plat unique. C'est délicieux.
Ça a l'air. En tout cas, ça donne envie d'essayer.
Vous venez d'écouter Linda Granbring dans la saison 3. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, rendez-vous chez Hoquet, au 8 rue Marie-Louise, à Paris 10e, où vous pouvez aussi essayer de refaire les recettes de son livre Food Pairing, une de mes bibles culinaires sortie chez Marabout et dont on parle dans l'épisode. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com. N'oubliez pas de vous abonner au compte apoilpodcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Laurie Martinez et moi-même, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour le dernier épisode d'Apoil de la saison 3.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.